Avant d'exposer la deuxième figure de l'égalité, qui est celle d'une société d'individus autonomes, je voudrais tout de même dire encore quelques mots supplémentaires sur la civilité. La révolution de la civilité, elle a en effet participé à la mise en place d'une économie complexe de l'égalité dans laquelle les formes sensibles du lien entre les hommes modifient la perception de leurs différences matérielles. C'est aussi sur ce mode que la notion d'égalité imaginaire prend toute sa force et sa signification. Même s'il revêtait une dimension totalement utopique, les différents projets d'uniformes qui ont été présentés pendant la Révolution française participaient de ce but. Si la proposition de doter d'uniformes spécifiques les différentes catégories d'élus et d'employés publics participait alors d'une volonté de marquer la prééminence des fonctions sur les personnes, l'idée de faire adopter un uniforme du citoyen français allait beaucoup plus loin. Et comme vous le savez, c'est le peintre David qui avait été chargé de proposer, de dessiner un uniforme du citoyen français. Cette idée d'un uniforme du citoyen français introduisait en effet une situation dans laquelle les différences de situation seraient devenues insensibles, tant aurait été vif le sentiment d'une vie commune. Les inégalités de fortune auraient alors été en quelque sorte totalement privatisées, tandis que l'espace public aurait été, lui, celui d'une similarité physiquement éprouvée. Même s'il n'y a pas eu de poursuite, il y a tout de même eu des livres écrits à l'époque sur le sujet, de ces projets d'uniformes de citoyens, cela montre que ce n'est pas simplement une économie de la civilité par rapport à une économie des différences économiques. Ce qui est en cause, c'est également le rapport du privé et du public, ce qui appartient à l'espace public et ce qui est dans l'espace privé. Et on peut dire que plus l'égalité sensible est forte dans l'espace public, moins les inégalités privées, d'un certain point de vue, seront sensibles. Mais c'est aussi un autre aspect de la civilité, les règles de la politesse, qui ont simultanément été redéfinies, visant à introduire un nouveau style de rapport entre les individus. Dès le mois d'octobre 1789, le cérémonial de l'Assemblée constituante est par exemple modifié. Le legs du passé avait en effet conduit à interpeller collectivement les députés en les qualifiant dans leur première réunion de « nos seigneurs ». C'est les mots que prononçaient les huissiers. C'est le mot que prononçait le président de séance. Et c'est dès ce moment-là, du mois d'octobre, que l'appellation plus sobre de « messieurs » s'imposa. Il fut de même proscrit dès octobre d'employer l'expression « honorable membre » dans les interpellations en séance. Et à partir du printemps 1792, c'est la dénomination de « citoyen » qui a tendu à se substituer à celle de « monsieur », marquant une nouvelle avancée dans l'adoption de formules liant l'égalité à l'expression d'une proximité. Lorsque la révolution est complètement faite dans les choses, il faut la faire aussi dans les mots, avait souligné un conventionnel au moment où l'Assemblée avait décidé d'adresser dorénavant ses proclamations au pays en les destinant aux citoyens français. Mais la rupture la plus significative dans cet ordre de la civilité venait d'une autre mesure encore plus radicale, le développement du tutoiement. On y vit l'adoption de la langue pure et simple de la nature et un moyen, je cite un article célèbre de Madame de Keralio dans le Mercure national, et un moyen de rétablir l'égalité. L'usage se répandit dès la fin de 1792 dans le milieu des clubs et des sociétés fraternelles de se tutoyer. Estimant que le mot « vous » était contre le droit de l'égalité, l'Assemblée générale des sans-culottes de Paris décida ainsi en décembre 1792 de bannir ce reste de féodalité en exigeant l'emploi du « tu », qui était le seul vrai mot digne des hommes libres. Et le tutoiement devint à partir de ce moment un indice de fraternité dans les sections. Une pétition à la convention du 18 Brumaire en deux appelait à en officialiser l'usage en estimant que lorsqu'on se tutoie, je cite, « il y a dans les relations moins d'orgueil, moins de distinction, moins d'inimitié, plus de familiarité apparente, plus de penchant à la fraternité, conséquemment plus d'égalité. Et on disait, on rappelait que c'est Montesquieu lui-même qui avait noté cela, « Le vous est un défaut des langues modernes et ceux qui l'emploient choquent la nature. » Et le théâtre s'inspira même du sujet, puisque sur les boulevards, on joua un ensemble de vaudevilles sur ce thème de la parfaite égalité où les tu et les toi. Et la concierge du philosophe Gingnet avait affiché une petite notice sur sa porte. « Citoyen, tu es prié de t'essuyer les pieds avant d'entrer, fermez la porte s'il vous plaît. » qui avait justement fait rire dans les vaudevilles. Mais l'usage forcé du tutoiement était resté éphémère. Il disparut après le 9 Thermidor, mais surtout après les journées de Prairial. Mais il n'en a pas à moins souligné l'importance des formes de l'égalité vécue. Et la civilité est pour cela une des modalités essentielles du lien social. Elle participe de sa construction en établissant des normes de respect, d'attention, et dans le formalisme même de l'observance des règles qui la constituent, c'est-à-dire quand elle se rétrécit à de la simple politesse, la civilité rappelle le statut reconnu à chacun. Elle instaure des formes de réciprocité. Elle est, en un mot, productrice de reconnaissance. Elle est bien pour cela une grandeur d'ordre indissociablement sociologique et politique. Et Montesquieu, d'ailleurs, un des premiers, avait souligné l'importance de cette interaction des lois et de la civilité. Et rapprochant Lycurgue et les législateurs de la Chine dans l'esprit des lois, il a montré comment en Chine, ces législateurs, en tout cas la façon dont ils les voyaient, avaient veillé à faire des formes de la relation quotidienne entre les hommes un élément clé de l'ordre politique. Et il note, les législateurs de la Chine avaient pour objet principal la paix sociale. Et ils voulurent donc que les hommes se respectassent beaucoup, que chacun sentît à tous les instants qu'il devait beaucoup aux autres, qu'il n'y avait point de citoyen qui ne dépendît à quelque égard d'un autre citoyen. Ils donnèrent donc aux règles de la civilité la plus grande étendue. Ainsi, chez les peuples chinois, on vit les gens de village observer entre eux des cérémonies comme les gens d'une condition relevée, moyen très propre à inspirer la douceur et à maintenir parmi le peuple la paix et le bon ordre. Et c'est dans des termes dérivés qu'il convient d'apprécier la manière dont les mœurs égalitaires participent de la réalisation d'une société de semblables. Et c'est l'espace de la civilité qui est conséquemment une variable décisive de la constitution de cette société des semblables. Les formes de la civilité sont en effet inséparables de leur déploiement dans un espace. Et Sieyès, le premier, a souligné de façon très pionnière le rôle que les espaces publics, en rapprochant les hommes, étaient amenés à jouer dans une société démocratique. Les propriétés publiques, écrit Sieyès, sont amies de l'égalité. Elles sont tout à fait dans l'esprit de l'égalité et à l'avantage des pauvres, à qui elles restituent une infinité d'agréments, de faits et de comparaisons que la richesse qu'on procurerait sans cela exclusivement à quelques-uns. « Ayez ainsi, dit-il, des trottoirs, des réverbères, des jardins, des portiques, des fêtes publiques, que l'esprit public tende au niveau de l'égalité, tandis que l'industrie personnelle, visant à l'inégalité, enrichit la société et tourne ainsi à l'avantage de tous. » Sieyès pense quant à lui dans les termes d'une convergence, les deux dimensions de l'esprit public et de l'industrie personnelle. Mais il invite du même coup à comprendre comment la vigueur du premier peut aussi conduire à compenser les différences induites par la seconde. C'est une autre façon d'exprimer ce rapport entre la privatisation des différences et le développement de l'espace public de ce qui est commun. Et que la force vivante d'une communauté de citoyens, peut-on dire, est donc aussi une condition de la réalisation d'un espace de semblables. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième figure de la société des égaux, la société des individus autonomes. Je cite à nouveau Rabault-Saint-Étienne. Dans les citations sur la Révolution, il faut changer un peu les personnages, qu'on ne soit pas toujours les mêmes. Rabault-Saint-Étienne écrit « On pose pour principe dans la formation d'une société que tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu'ils sont tous égaux de taille, de force, de talent et même d'industrie, de richesse. Ce serait absurde, mais ils sont égaux en liberté. » Ainsi s'exprimait-il dans ses « Idées sur les bases de toute constitution » en 1789. L'idée de société des égaux renvoie dans ce cas à une forme de relation sociale, à un type de société dans laquelle nul n'est soumis à la volonté d'autrui, tous pouvant conserver leur autonomie. Cette autonomie ne doit donc pas être confondue avec un individualisme, compris comme un attribut individuel. Elle ne prend sens qu'en tant que capacité. Être autonome, c'est pouvoir inventer sa vie, exister comme sujet responsable de lui-même. Et l'autonomie individuelle implique donc une garantie sociale. Elle ne peut se maintenir que dans une société qui bannit toutes les dépendances. Elle est un fait de réciprocité et non pas un attribut comme celui qui peut résulter de la distribution d'un bien. Seule une société d'individus indépendants fait ainsi sens dans un univers de liberté. Elle est de l'ordre d'une réciprocité active. Cette appréhension de l'égalité est au cœur de l'idéal rousseauiste. Dans une lettre envoyée à son père, lorsqu'il a 19 ans, Jean-Jacques se dit soucieux, je le cite, « de vivre sans le secours d'autrui ». D'où son fameux éloge dans l'Émile de la figure de l'artisan. « De toutes les conditions, la plus indépendante de la fortune et des hommes », écrit-il. Mais cette indépendance de l'artisan ne se lie dans son esprit à aucune forme de retrait ou de vie solitaire. Elle est au contraire la condition d'une vie pleinement sociale. Elle place chacun dans un juste rapport avec autrui, l'indépendance mutuelle nourrissant une relation de réciprocité. Pour qualifier cette forme d'égalité revendiquée par Rousseau, un de ses plus profonds commentateurs, Jean Starobinski, parle pour cela, à juste titre, de réciprocité des consciences libres. L'égalité est là celle d'un commerce humain, vraiment libre. La perspective d'une égalité-liberté de cette nature a en fait constitué la matrice historique de l'aspiration des modernes à une vie émancipée. Et elle était pour cela créatrice d'une société d'égaux. C'est ce qu'explique Rousseau dans l'Émile, quand il dit, quand une personne s'étonne en disant « Quoi, vous voulez de faire de mon fils un artisan, y pensez-vous ?» Et il dit « Madame, je veux lui donner un rang qu'il ne puisse perdre, un rang qu'il honore dans tous les temps. Et quoi que vous puissiez en dire, il aura moins d'égo à ce titre qu'à tous ceux qu'il tiendra de vous, puisque la mère voulait en faire un héritier et rêvait d'en faire une personne importante, un lord, un marquis ou un prince peut-être. » Et c'est pour cela que cette aspiration à la vie émancipée s'est identifié au combat contre ce qui apparaissait, contre sa négation radicale, l'esclavage. Elle a du même coup érigé ce dernier terme d'esclavage en concept repoussoir central du libéralisme politique au XVIIe et XVIIIe siècle, l'esclavage constituant la forme archétypique du rapport inégal. Si ce terme, il évoque immédiatement pour nous les infamies du commerce triangulaire pratiquée par les Européens au XVIIIe siècle, et la situation des Noirs dans l'Amérique d'avant la guerre civile, comme dans les Caraïbes avant l'émancipation, il était, s'il est toujours indissociable dans nos têtes d'une histoire de la colonisation et de l'exploitation des champs de coton ou de canne à sucre sous les tropiques, ce n'était pas le cas au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Le terme d'esclavage est alors utilisé de façon beaucoup plus large, pour qualifier toutes les situations de dépendance jugées insupportables. Il avait un sens métaphorique, principalement politique et social, et ne désignait que très secondairement le régime de la servitude économique légale. Dans toute la littérature anti-absolutiste, on qualifiait d'esclaves les individus ou les peuples qui étaient jugés opprimés, soumis au bon vouloir d'un despote, dont les droits étaient bafoués et l'humanité niée. L'esclavage était la négation radicale d'une société d'individus indépendants, de la même façon que le privilège insultait la similarité entre les hommes. À la fin du XVIIe siècle, Jurieux, l'un des plus célèbres opposants à la politique de Louis XIV, qui était la grande figure de proue de l'opposition protestante après la révocation de l'édit de Nantes. Jurieux avait donné pour titre à son ouvrage majeur « Les soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté ». Et à la même époque, dans une Angleterre en révolution, Locke ouvrait son traité du gouvernement civil par une longue dénonciation de l'esclavage. Et le grand théoricien du républicanisme de l'époque outre-Manche, Algernon Sidney, donnait pour titre à l'une des premières sections de ses discours sur le gouvernement, c'est un long titre, « C'est un pur esclavage de dépendre uniquement et absolument de la volonté d'un seul homme ». Et au XVIIIe siècle, dans leur fameuse « Cato's Letter », Gordon et Trenchard, ceux qui ont bataillé contre la politique Walpole pendant une longue période, dénoncèrent encore ce qu'ils estimaient être la condition d'esclaves dans laquelle se trouvaient les Anglais de l'époque. Ils définiront leur programme d'une véritable émancipation politique et civile comme l'abolition de cet état servile. L'esclavage, écrivait-il, je cite ce texte parce qu'il a été perpétuellement, continuellement cité dans la Révolution américaine. Les textes de référence les plus fréquemment cités dans la Révolution américaine sont généralement des textes du républicanisme anglais du milieu du XVIIIe siècle. Et les Cato's Letters de Gordon et Trenchard ont été spécialement cités, et particulièrement ce passage de la lettre numéro 62. L'esclavage, écrivait-il, consiste à vivre à la merci d'un autre. Et la situation d'esclavage, pour ceux qui réussissent à le supporter, est faite d'un état d'incertitude permanente et de misère. Et lorsqu'il publiera quelques années plus tard à Londres, où il résidait alors, son premier ouvrage « Enfiévré contre le despotisme », c'est donc tout naturellement que Marat l'intitulera, en 1774, « Les chaînes de l'esclavage ». Dans les longs articles « Esclavage et esclaves » qu'il rédige pour l'encyclopédie, Jaucourt traite lui aussi essentiellement de l'esclavage politique et civil. Celui-ci est appréhendé en termes très généraux, je le cite, comme « violation du principe de l'égalité naturelle des hommes ». Il se trouve rapporté de la sorte aux situations qui privent un individu de sa dignité ou de son autonomie. Le mot est en fait assimilé chez Jaucourt au mal politique absolu. Il symbolise ce qu'il y a d'insupportable dans la dépendance, le dénivelé entre les hommes. Mais l'esclave, au sens strict du terme, n'apparaît chez lui que sous les espèces de son existence antique. Il est renvoyé à un monde d'archaïque barbarie. Et chose surprenante pour le lecteur d'aujourd'hui, il ne consacre qu'un très court passage de son très long article qui a eu plus d'une vingtaine de colonnes. Il ne consacre qu'un très court passage de son article à la situation de ceux qui sont appelés des esclaves nègres, en fin d'article. Et encore, ce n'est pas pour traiter véritablement leur situation, c'est pour traiter le problème juridique qui est posé lorsque ces esclaves nègres étaient ramenés ou envoyés en France par leur maître. Et donc, quels étaient, dans quelle catégorie juridique devaient-ils être considérés lorsqu'ils arrivaient en France, dans un territoire où l'esclavage n'existait pas. Et on retrouve le même paradoxe dans l'Amérique du milieu du XVIIIe siècle. La dénonciation de l'esclavage y est également omniprésente dans les articles et les brochures politiques, en citant les Cato's Letters, mais bien d'autres. Et l'assimilation de la position des Américains vis-à-vis des Anglais à une situation d'esclave a été le cœur de la rhétorique indépendantiste des années 1750 à 1770. Et c'est à longueur de page que les Américains se dépeignent comme les esclaves des Britanniques, dans les brochures, les pamphlets, dans les sermons, dans les articles de journaux. John Adams, qui est la grande figure du libéralisme modéré en Angleterre, pourrait-on dire, puisqu'il avait même pensé à la possibilité d'une monarchie autonome, il écrit « Nous formons la plus abjecte des sortes d'esclaves. Le fait d'être soumis à l'impôt sans que nous-mêmes ou nos représentants y aient consenti fait de nous des esclaves », martelaient les Américains pendant cette période. La situation des Noirs réduits à la servitude dans les plantations, chose stupéfiante pour nous, n'était que très secondairement évoquée dans cette littérature politique. Et quand elle l'était, c'était pour être immédiatement rapportée à la condition des Américains vis-à-vis de l'Angleterre ou à celle des habitants d'Europe soumis au joug des régimes despotiques. On ne lui reconnaissait rien de plus infamant ou de plus dégradant. Puisque ne saurait y avoir de liberté partielle, disait-on, l'Américain, si le cours des choses n'est pas inversé, finira par devenir l'équivalent d'un esclave de plantation. Et certains vont même plus loin et n'hésitent pas à affirmer que le nègre dans une plantation, au moins il fait pitié, alors que l'Américain est, lui, ouvertement maîtrisé par la puissance coloniale. Et donc la situation de l'Américain est pire que celle de l'esclave de plantation. En Amérique et en France, la force de l'appel à former une société d'individus autonomes était à la mesure de cette stigmatisation d'une dépendance perçue de façon aussi radicale. Dans l'Amérique coloniale, la dépendance ne renvoyait cependant pas seulement à une vision politique de cette nature. Le sentiment de dépendance se liait aussi pour la masse des Américains modestes à l'expérience directe ou en tout cas au côtoiement ou à la mémoire de ce qu'on appelait l'indentured labor, ce que l'on peut traduire par travail lié ou travail engagé. Voilà de quoi il s'agit. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, de nombreux immigrants n'avaient pas les moyens de payer leur voyage par l'Amérique. Il ne faut en effet jamais oublier que le coût du transport était 5 à 6 fois plus élevé au temps de la marine à voile par rapport à la marine à vapeur, ce qui a changé complètement l'économie mondiale de l'immigration, c'est la baisse extraordinaire du coût du transport à partir des années 1860. Mais aller en Amérique au temps de la marine à voile, au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'était extrêmement coûteux. Et donc, ce transport n'était pas accessible à tous ceux que la misère aurait pu obliger à tenter l'aventure d'une autre vie. Et dans de nombreux ports d'Angleterre, mais aussi parfois d'autres pays européens, Amsterdam notamment, des capitaines de navires ou divers intermédiaires proposaient de payer le transport en échange de la signature d'un contrat de travail, contrat qui était fort déséquilibré, puisqu'il comportait l'obligation de travailler gratuitement pendant une durée variant de 5 à 7 ans. Pour avoir une idée de ces contrats de travail, vous savez qu'il y a beaucoup de personnel domestique qui travaille dans les États du Golfe aujourd'hui. C'est une idée approximative de ce qu'était l'indentured labor, pour donner une idée aux contemporains. C'était donc une façon de vendre sa force de travail à autrui. Et le système n'était pas simplement appliqué pour, je dirais, des immigrants potentiels. Il était aussi appliqué de façon contraignante à des personnes qui étaient condamnées pour dette. Quelqu'un qui était condamné pour dette, un contrat de cette nature permettait un certain remboursement. Et des délinquants étaient aussi déportés de cette façon, de même que des orphelins dont les orphelinats et les paroisses voulaient se débarrasser pour réduire leurs dépenses d'assistance. Et c'est de la forme initiale de ce contrat, qui était rédigé en deux exemplaires sur la même feuille. Il y avait deux rédactions sur la même feuille. Et ensuite, il était coupé en deux, une partie pour celui qui possédait le contrat et qui donc allait le vendre, et l'autre partie pour celui qui avait signé le contrat. Et c'est de ce système que provient le terme d'indenture, parce que les deux copies, l'une allant à l'immigrant et l'autre à la personne ayant financé le transport, étaient marquées par la dentelure du découpage, indented edge. Donc ça veut dire contrat dentelé, si on veut. Et c'est ça l'origine, c'est le mode de découpage, parce qu'après avoir été découpé de cette façon dentelée, il était scellé pour garantir l'authenticité de l'acte. D'où l'origine de cette expression, sinon qui n'est pas très compréhensible. Et le capitaine ou l'intermédiaire vendait à l'arrivée le contrat à un employeur, le plus souvent un fermier qui avait besoin de main-d'œuvre. Il se remboursait ainsi du coût du transport et faisait un substantiel bénéfice. Le nouvel employeur ne versait aucune rémunération à l'immigrant pendant la durée prévue du contrat. Il se contentait de le loger et de le nourrir. Tout en lui versant, dans la plupart des cas, c'était parfois prévu dans le contrat, ou parfois c'était de coutume locale, un petit pécule au moment de son départ. Et dans certains des 13 États coloniaux, il y avait alors un certain nombre de procédures, soit des communautés locales, soit parfois des États, qui donnaient un peu de terre pour aider la personne à s'établir à l'issue de son contrat d'indenture. Et ces travailleurs, que l'on désignait généralement par le terme de « servants », étaient ainsi soumis pour un temps à une forme de servitude. On parlera de « white servitude », puisqu'ils étaient juridiquement attachés à une personne, les lois châtiant très sévèrement ceux qui tentaient de quitter leur maître. Et le caractère mobile de sa condition était renforcé par des conditions de travail, le caractère servile, pardon, de sa condition, était renforcé par des conditions de travail souvent très difficiles et un traitement sévère, voire brutal, que la loi autorisait. La loi autorisait, par exemple, les châtiments corporels sur les servants. Elle était presque aussi dure que ce que la loi autorisait vis-à-vis des esclaves de plantation. Et cela se traduisait par le fait que l'indenture, également, pouvait être revendu avant son terme. Si quelqu'un avait acheté un contrat de 7 ans, eh bien, au bout de 4 ans, s'il changeait d'activité, il revendait son contrat. Et donc la personne était transférée comme un bien mobilier, un meuble à un autre maître. On a estimé que jusqu'à la moitié des vagues d'immigrants étaient arrivées dans les 13 colonies dans le cadre d'un travail de cette nature. Donc l'indenture n'est pas quelque chose de marginal, c'était un fait absolument massif dans l'histoire américaine. Et d'ailleurs, quand vous regardez un livre typique comme le livre de Reynal sur l'histoire politique du commerce dans les deux Indes, Reynal consacre de longs développements à la question de l'indenture. Quand on voit l'article États-Unis, c'est Desmonnier lui-même qui le cite dans l'encyclopédie diplomatique, économique et diplomatique, il a un long passage sur l'indenture. Il a d'ailleurs eu une correspondance avec le jeune Jefferson, à cette occasion, et Jefferson avait tendu à minimiser l'importance de l'indenture. C'est quelque chose d'intéressant. Il y avait donc, peut-on dire, une expérience collective de ce type de dépendance qui était imprimée dans les esprits autant que dans les corps outre-Atlantique. Chacun connaissait au moins une personne ayant vécu cette expérience, s'il n'avait pas lui-même été soumis à ce même itinéraire. Elle l'était d'autant plus qu'existaient aussi des statuts d'apprentissage qui étaient également particulièrement contraignants. Et contrairement ou comparativement à la situation anglaise, les formes d'asservissement des individus dans le travail étaient globalement beaucoup plus fortes en Amérique qu'en Angleterre. L'Amérique n'était pas encore à quelques décennies près, le pays dans lequel allaient se multiplier les artisans et les petits paysans. L'appel à s'affranchir de la puissance coloniale se doublait ainsi dans bien des têtes de l'aspiration à s'établir dans un travail libre. Le terme d'indépendance avait de la sorte pour le peuple une double signification. Une république ne pouvait être constituée que d'individus autonomes. Le terme « self-dependent » se trouve dans de très nombreux écrits américains de la période, d'individus autonomes, maîtres de leur travail et de leur destin, affranchis de toutes les formes de dépendance personnelle. Et on peut dire que la question sociale dans l'Amérique des années 1770 n'est pas celle des inégalités économiques, de l'opposition entre riches et pauvres. Elle était d'abord identifiée au clivage introduit par la dépendance. Et la liberté se confondait pour cela avec l'égalité. On peut parler d'une aspiration à l'égalité-liberté. L'autonomie des individus apparaissait comme la condition d'un lien social régénéré, qui aurait été vivifié en permanence par l'échange et l'interaction entre des hommes que plus aucune barrière n'aurait dorénavant séparé. On peut parler dans ce cadre de la formation, de la représentation d'une figure d'égalité de marché, au sens formel du terme, qui se dessine dans cette perspective. Être l'égal d'autrui signifie se trouver avec lui dans un rapport de libre-échange, c'est-à-dire de réciprocité. L'égalité, elle est là strictement d'ordre commutatif. Le sens plus sociologique qu'économique qu'a le mot « commerce » au XVIIIe siècle participe de cette vision. Il désignait en effet alors toute relation équilibrée entre les hommes. Il s'opposait de cette façon à un ordre politique qui était perçu comme structurellement fondé sur un rapport inégal, soumettant la masse à la volonté de quelques-uns. L'échange substituait l'objectivité d'une équivalence à la tentation du rapport des forces et de l'affrontement des volontés comme des subjectivités qui sous-tendaient en permanence le champ politique. Dans l'article « Commerce » de l'encyclopédie, Véron de Forbonnet écrit ainsi « On entend par ce mot de commerce, dans le sens général, une communication réciproque. Il s'applique plus particulièrement à la communication que les hommes se font entre eux des productions de leur terre et de l'industrie. Mais c'est l'idée de communication réciproque qui est première, l'échange économique n'étant qu'une des modalités. Et l'échange économique, c'est pour cela inscrit dans une économie générale des rapports sociaux. Cet échange a constitué une des modalités d'exercice de l'égalité-relation. En échangeant le fruit de leur travail, c'est leur condition d'égaux en indépendance que les hommes affirment, et c'est leur relation d'égaux en interdépendance à laquelle ils donnent vie. On croit au XVIIIe siècle à la possibilité d'un tel échange proprement régénérateur, et on rêve spontanément du monde que l'on veut faire advenir exactement dans les catégories que Marcel Mauss forgera dans son « Essai sur le don », pour décrire des univers dans lesquels l'économie mêlait, pour reprendre son expression, les vies et les choses, la reconnaissance des dignités et l'équivalence dans les transactions. Parlant des échanges dans certaines sociétés, Mauss écrit ainsi « Au fond, ces échanges sont des mélanges. On mêle les âmes dans les choses. On mêle les choses dans les âmes. On mêle les vies et voilà comment les personnes et les choses mêlées sortent chacune de sa sphère et se mêlent, ce qui est précisément le contrat et l'échange. On peut comprendre l'esprit de l'égalité dans les révolutions américaines et françaises, on ne peut pas le comprendre, cet esprit de l'égalité, si l'on ne prend pas en compte cette appréhension de l'époque, d'un marché susceptible d'être à la fois expression d'une liberté et vecteur de l'égalité. Le marché, pourrait-on dire, était perçu comme une sorte d'école de l'égalité. C'est une idée qui est très présente chez Sieyès et qu'il avait lue tout simplement chez Fergusson. C'est une idée centrale de l'essai sur l'histoire de la société civile de Fergusson. Et avant d'avoir eu partie liée au XIXe siècle avec l'histoire du capitalisme, l'économie politique s'était de cette façon clairement inscrite dans une théorie sociologique de l'échange et dans une philosophie morale de la sympathie. C'est l'œuvre d'Adam Smith. On pourrait parler en ce sens d'un libéralisme de la réciprocité. Cette vision émancipatrice du marché s'affirmait aussi bien sous les espèces d'une aspiration à l'indépendance du travailleur, comme en Amérique, que sous les espèces d'une libération du travail, lorsqu'il était corseté, comme souvent en Europe, dans des limitations corporatives ou réglementaires, productrices de monopoles et partant d'inégalités et d'exclusions. Et en France, l'abolition des jurandes, des maîtrises et des corporations en 1790 avait symbolisé ce combat pour ce que j'ai appelé l'égalité de marché. En Angleterre, la critique s'était en revanche davantage polarisée sur les règles de l'apprentissage, auxquelles Adam Smith, on le sait, consacrera de très longs chapitres dans La richesse des nations. Et l'économie politique de l'époque est pour cela inséparable d'une sociologie historique de l'émancipation et de l'indépendance. L'œuvre de Smith en a témoigné avec éclat, mais il n'a fait que participer d'un mouvement très général. Et avant lui, je l'ai déjà cité tout à l'heure, John Millar, une des grandes figures des Lumières écossaises, dont l'œuvre avait esquissé certains des thèmes essentiels de La richesse des nations, avait ainsi lié marché et constitution d'une société d'individus égaux et indépendants. Dans son livre sur l'origine de la distinction des rangs auquel j'ai fait référence, il estimait que les progrès de la civilisation étaient indexés sur la multiplication du nombre de négociants et d'artisans directement intéressés à l'expansion de leur industrie. À l'inverse, soulignait-il, une société dans laquelle un grand nombre d'habitants se trouve dans un état de dépendance vis-à-vis d'autres, étant, par exemple, assigné une terre et soumis à leur maître, cette société, elle tend à se reproduire à l'identique. La dépendance, en effet, fait dépendre la subsistance de la soumission à autrui et non pas du zèle que l'on déploie. L'émancipation des classes sociales dominées, John Millar a de longs chapitres sur les serviteurs, les esclaves, les ouvriers agricoles, les enfants, les femmes, était donc pour lui le vecteur historique du progrès. L'influence du commerce et des manufactures, en concluait-il, paraît favorable à la liberté étant nécessairement à établir une forme de gouvernement populaire. L'idée d'utilité réciproque était ainsi prête à remplacer celle d'autorité hiérarchique pour penser la bonne marche du monde, égalité et liberté marchant de concert. Chez Millar, la perspective de l'avènement d'une république d'artisans se superposait donc avec celle du développement d'une société de marché. Dans l'Angleterre de la moitié du milieu du XVIIIe siècle, c'est un fait capital. Le langage du libéralisme économique pouvait se teinter d'accent néo-harringtonien et retrouver des formules apparentées à celles du civisme républicain comme celle de l'idéologie country. Le grand auteur qui a analysé ce rapprochement et qui en a fait la description méthodique dans de très nombreux volumes, c'est évidemment John Pocock. John Pocock est celui qui a montré comment cet esprit néo-harringtonien, comment celui de l'idéologie country et d'une certaine vision du libéralisme économique ont marché de pair. Et plus avant dans le siècle, c'est-à-dire John Millar est avant La richesse des nations, mais après La richesse des nations, l'autre grand livre d'économie majeure, c'est celui de Stoyart, La recherche des principes de l'économie politique, qui a eu un grand succès en Europe, et notamment qui est un livre qui a philosophiquement une influence décisive sur Hegel. Hegel a développé, a consacré de nombreux passages à Stoyart, et d'ailleurs, il y a d'ailleurs une thèse très intéressante de Paul Chamlet consacrée à cette lecture de Hegel par Stoyart. Et pour Stoyart, pour lui aussi, la liberté moderne n'est qu'une conséquence de l'indépendance économique. Il développe ainsi toute une théorie historique de l'évolution des régimes politiques à partir des différentes figures de la subordination sociale. Toute autorité, écrit-il, est en proportion de la dépendance. Et le désavantage de la forme monarchique relativement au commerce et à l'industrie, dit-il, ne provient pas de l'inégalité qu'elle établit parmi les citoyens, mais ce régime monarchique est la conséquence de cette inégalité, souvent, dit-il, accompagnée d'une subordination arbitraire et indéterminée entre les individus des classes supérieures et inférieures ou entre ceux qui sont chargés de l'exécution des lois et le corps du peuple. Pour Stoyart, le régime républicain est donc le plus favorable au commerce et à l'industrie. Ou, c'est la même chose, d'un régime démocratique, parce qu'il peut naturellement développer les forces productives en étant le facteur qui permet l'indépendance des producteurs. Et le commerce et l'industrie, écrit-il, sont appelés partout, et leur établissement produit nécessairement une fermentation étonnante avec les restes de la constitution féodale. Le marché était ainsi, pour Stoyart, comme pour Millard, lié à l'avènement d'une société d'individus autonomes et le prélude à la constitution d'un régime républicain. Cette célébration de l'égalité de marché, au temps de la Révolution américaine comme au temps de la Révolution française, peut nous sembler difficilement compréhensible aujourd'hui. Tant la critique contemporaine du, entre guillemets, néolibéralisme s'est imposée dans beaucoup d'esprits. Mais cette loi ne doit pas faire oublier que même au XIXe siècle, au plus fort du capitalisme destructeur, un Proudhon théorisait, j'y reviendrai, l'idée d'une réappropriation possible, d'une réappropriation sociale possible du marché, sous les espèces du coopératisme, vivifiée par un crédit rendu accessible à tous. Ce sont les grands thèmes de sa Banque du Peuple en 1849. Et en ce début du XXIe siècle, l'idée de microcrédit dans un esprit voisin se fonde aussi sur la possibilité d'un usage émancipateur du marché. Cette histoire, je dirais, des usages émancipateurs du marché, l'auteur qui les a traités le plus récemment, c'est Laurence Fontaine, dans son livre « L'économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe pré-industrielle », publié chez Gallimard en 2008, dont je ne saurais trop recommander la lecture. Et donc, une vision de ce marché émancipateur que l'on peut se réapproprier socialement, une vision de cette sorte s'imposait d'autant plus aisément au XVIIIe siècle que la révolution industrielle n'avait tout simplement pas produit ses effets. Et que l'idée d'un libéralisme émancipateur égalitaire faisait encore du même coup, évidemment, sens. Cette vision d'un libéralisme émancipateur égalitaire a été inséparable de la formation de ce que j'appellerais un libéralisme optimiste. Tout ce qui peut établir la dépendance d'homme à homme doit être proscrit dans une république. Ces mots de Barère, le grand théoricien révolutionnaire de l'extinction de la mendicité, avec La Rochefoucauld-Liancourt, donnent bien le ton de ce à quoi renvoyait le projet d'une société d'individus indépendants pendant la Révolution française. Au-delà de l'égalité de marché, c'était la possibilité d'une société dans laquelle chacun était maître de son destin autant que responsable de sa subsistance, qui était dessinée. La soumission humiliante de certains au secours des gens puissants était perçue comme la simple conséquence d'une dépendance généralisée, le prolongement hypocrite et trompeur d'un asservissement fondateur. Et l'idée de dignité morale de la personne ne se séparait donc pas d'une capacité à l'autonomie matérielle. L'autonomie, on la voyait ainsi, marquait avec évidence l'entrée dans un nouvel âge de l'humanité. Cette attente d'une régénération par l'indépendance du rapport entre les hommes était sous-tendue dans les têtes par un extraordinaire optimisme. L'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain de Condorcet, ouvrage posthume, en constitue une des expressions typiques. L'histoire de la Révolution moderne s'identifie en effet pour le philosophe à une marche nécessaire vers l'égalité. Je le cite, « Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à trois points importants. 1. La destruction de l'inégalité entre les nations. 2. Le progrès de l'inégalité dans les mêmes peuples. 3. Le perfectionnement réel de l'homme. Adviendra donc notamment, je recite Condorcet, cette égalité de fait qui est le dernier but de l'art social, qui, diminuant même les effets de la différence naturelle des facultés, ne laisse plus subsister qu'une inégalité inutile, qu'une inégalité, pardon, utile à l'intérêt de tous, parce qu'elle favorisera les progrès de la civilisation, de l'instruction et de l'industrie, sans entraîner ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement. Vous voyez, dans l'idée de laisser subsister seulement une inégalité utile à l'intérêt de tous, la première formulation, je dirais, du second principe de Rawls. Exactement. Que ce que disait Condorcet aussi, c'est que les conditions de la marche vers cet état d'égalité impliquaient de distinguer trois causes de différenciation des hommes. Les inégalités de richesse, les inégalités d'instruction et les inégalités circonstancielles. Les inégalités d'instruction, tous les programmes d'éducation, d'instruction publique et d'éducation nationale vont être concentrés sur ce point. Mais Condorcet est aussi original parce qu'il est un des premiers à proposer une théorie des accidents de la vie, notamment à avoir cette idée qu'il faut combattre le hasard par le hasard et appliquer le calcul des probabilités au fait de la vie. Et donc, dans ce livre, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, il développe un premier système, disons, d'assurance vieillesse. Le premier, il y avait eu des propositions d'assurance maladie qui avaient existé au milieu du XVIIIe siècle, mais là, c'est la première formulation d'un système d'assurance de vieillesse. Ces trois espèces d'inégalités que Condorcet voyait appelées à être de plus en plus faibles, comment pouvaient-elles diminuer? C'est sur ce point que ces arguments nous intéressent tout particulièrement. Il est aisé de prouver, dit Condorcet, que les fortunes tendent naturellement à l'égalité, et que leur excessive disproportion ou ne peut exister ou doit promptement cesser si les lois civiles n'établissent pas des moyens factices de les perpétuer et de les réunir. Si, d'autre part, la liberté du commerce et de l'industrie fait disparaître l'avantage que toute loi prohibitive, tout droit fiscal, donne à la richesse acquise. Donc on peut dire que s'il n'y a pas de loi instituant des formes de privilèges, s'il n'y a pas de monopole et de loi prohibitive, eh bien l'égalité, l'inégalité disparaîtra naturellement. Cet optimisme économique de Condorcet, il n'était pas l'œuvre d'un utopiste qui réfléchissait dans sa prison avant de monter sur l'échafaud. En effet, après Thermidor, la Convention a décidé d'organiser la publication du tableau et d'en faire une sorte de, je dirais, d'ouvrage de la philosophie officielle thermidorienne, puisque cet ouvrage sera imprimé aux frais de la Convention à 3000 exemplaires. Il a eu un large succès commercial par ailleurs, à 3000 exemplaires qui ont été répandus dans les bibliothèques et beaucoup d'institutions locales, nationales, des sections populaires, etc. Le fait intéressant est que Condorcet ne lie aucunement son optimisme économique, qui est dérivé d'une foi générale dans les effets du progrès, à une célébration productiviste ou une idée de croissance illimitée. Il est encore très loin de Marx sur ce point. Il s'inscrit au contraire toujours dans la perspective d'une modération des passions et de l'encastrement des activités économiques dans les rapports sociaux. Et s'il se défend de prôner ce qu'il appelle une austérité mal entendue, il n'en juge pas moins nécessaire que règne, je le cite, une simplicité des mœurs et que les richesses cessent d'être des moyens de satisfaire la vanité ou l'ambition. Cette conception d'une vie réglée que l'on dirait héritée du jansénisme de la période précédente, jansénisme lui-même très lié à tout le retour de l'humanisme civique, est encore fortement prégnante à l'aube du nouveau siècle qui verra le capitalisme imposer sa loi. En témoigne de façon exemplaire un autre ouvrage, c'est le premier ouvrage de Jean-Baptiste Say, qui s'appelle « Holby ». Ce petit essai d'une centaine de pages, publié en 1799, sous la plume de celui qui allait devenir la référence économique obligée de toute la génération témoin de la révolution industrielle, est en fait un ouvrage de morale. Il est d'ailleurs sous-titré « Essai sur les moyens d'améliorer les mœurs d'une nation ». c'est écrit dans un style qui doit vraiment tout aux utopistes du XVIIIe, c'est, il parle des Olbiens, les habitants d'un pays qui venait de rompre avec son passé rétrograde. Donc la fable était transparente. Pour établir une nouvelle administration et mettre en place une législation adaptée aux besoins d'une nation régénérée, priorité avait été donnée à la rédaction d'un bon traité d'économie politique. Là, on voit quand même où va en venir c'est. Mais ce traité n'est nullement la première ébauche de son œuvre éponyme. Ce que nous propose celui qui sera le futur éducateur économique de la nation, c'est une longue exhortation à vivre sobrement, à se défier de l'excès des richesses, à veiller, je le cite, à ce que l'amour du travail ne soit jamais excité par le désir du gain. À Holby, dit-il, il n'y a ni opulence excessive, ni extrême indigence. La simplicité du goût, des goûts, y est un motif de préférence et un objet de considération. À Holby, si un homme ou une femme s'acquittait mal de son travail, trompant la confiance de ses concitoyens, qu'ils soient commerçants ou artisans, ou s'ils ne rendaient pas les services qu'on attendait de lui, s'il était administrateur, fonctionnaire, son nom devenait obligatoirement suivi de la qualification d'homme inutile. Donc, à chaque fois qu'on l'appelait, on disait « Monsieur Dupont, homme inutile ». C'était la loi à Holby. Et le marché était cette façon régulé par la morale et la contrainte sociale. Il n'était qu'un simple serviteur docile de l'harmonie. Et le pessimisme de Malthus et les démons de la grande industrie n'avaient pas encore pris place dans cette représentation du monde. Le libéralisme optimiste et l'idée d'égalité de marché ont contribué à crédibiliser mentalement le projet de réalisation d'une société d'individus indépendants. Mais l'État existant des structures sociales a aussi beaucoup compté, en Amérique tout particulièrement. La disparition de l'indentured labor est très largement accomplie à la fin des années 1780, même s'il y a encore tout un ensemble de rémanences. Et cela a modifié considérablement le monde des Blancs américains. Nous verrons plus loin comment l'imaginaire collectif avait alors exclu les Noirs. Et les jeunes États-Unis sont alors un pays essentiellement agricole, de 3 millions d'âmes. N'oublions pas qu'au moment où il y a la constitution de Philadelphie, les Américains ne sont que 3 millions, alors que la France ont 25 millions. Donc il y a un tout petit pays, vraiment, et un grand pays. À cette époque, alors que 50% de la force de travail est employée dans l'agriculture en Angleterre, en 1787, ce sont 90% des habitants des 13 États qui sont agriculteurs, la plupart d'entre eux vivant dans de très petites communautés rurales, dans lesquelles tout le monde se connaissait. L'Amérique était alors vraiment devenue un pays de propriétaires, de petits propriétaires, alors que pour faire image à la même date en Angleterre, c'est 400 familles qui se partageaient à peu près 30% du territoire britannique. C'était une société de face à face et pas encore une société civile commerciale, comme cela devenait le cas en Angleterre et en France. Dans l'Amérique de 1787, les échanges de marchandises y étaient presque toujours insérés dans des relations sociales de proximité, et la monnaie n'y jouait encore qu'un rôle secondaire. Dans la plupart des villes, il n'y avait pas encore de banque. Un système informel de crédit avec les commerçants et les artisans prenait souvent le pas sur le règlement immédiat et direct en numéraire. L'économie numéraire était secondarisée dans l'Amérique de 1787 par rapport à cette économie de crédit réciproque et cette économie, je dirais, qui développait ce qu'on pourrait appeler, qui était fondée sur ce qu'on peut appeler une société de confiance, une société homogène, soumise à une forte pression sociale. Et l'idée de liberté ne se séparait pas, pour cela chez eux, d'un certain sentiment égalitaire dans ce contexte. On pouvait même parler d'une véritable culture de l'égalité dans l'Amérique de 1787, qui était l'expression de la fierté ombrageuse de cette masse, de fermiers, mais aussi d'artisans et de commerçants relativement indépendants. Et James Madison pouvait en conclure que le petit agriculteur indépendant constituait la base naturelle de les libertés publiques, même si c'est alors dans les rangs antifédéralistes que l'on a naturellement trouvé le plus fortement exprimé cette sensibilité. Les antifédéralistes ont beaucoup développé le thème de la petite république, le thème de la proximité des agriculteurs. Ils ont aussi un des textes les plus célèbres des antifédéralistes, ce sont les lettres d'un fermier. Cette culture de l'égalité, cet appel à faire du petit agriculteur indépendant que Madison célébrait, renvoyait à une société qui évoluait certes rapidement, mais dans laquelle cet esprit des origines perdurera, l'idée d'égalité restant inscrite dans un imaginaire de l'homme indépendant, à distance de toute conception redistributrice. On ne peut pas lire Emerson, on ne peut pas lire Thoreau, si l'on ne se souvient pas qu'il participait de cette mémoire et de cette culture de l'égalité de cette période. La France de 1789 ne ressemblait naturellement pas à cette Amérique naissante, mais les mêmes représentations de l'égalité et liberté ne s'y retrouvaient pas moins. Une même ligne d'horizon dessinait dans les deux pays la forme du bien politique. Elle n'était seulement en France que plus détachée de l'expérience, inscrite dans des utopies mobilisatrices ou des nostalgies nourricières. On y rêvait, en France aussi, d'une république de petits paysans et d'artisans. Et on en rêvera longtemps encore. Cette forme d'indépendance, cette forme d'égalité, on l'a retrouvée très récemment, très fidèlement exprimée par tous les auteurs qui ont développé la notion de common decency. Si vous regardez le livre de Margalit, La société décente, si vous retournez vers un certain nombre d'ouvrages d'Orwell, je pense notamment à son livre Hommage à la Catalogne, et si vous regardez les ouvrages du sociologue Christopher Lasch, au fond, c'est cette même idéal d'une république des artisans, d'une république des gens modestes qu'ils mettent en œuvre. Mais cet idéal, il avait été formulé pratiquement dans les mêmes termes et parfois de façon plus développée au temps des révolutions françaises et américaines. Donc, je m'arrête là pour la société des individus indépendants. La semaine prochaine, nous parlerons notamment de la communauté des citoyens. À la semaine prochaine.